Mes amis, en 1988, le Seigneur m'avait donné l'occasion de visiter pour la première fois Lourdes, le sanctuaire marial de France. Et je me suis joint à un moment donné aux pèlerins qui faisaient le chemin de la croix. C'était beau, mais j'étais frappé de voir que, à ce moment-là, à Lourdes, il y avait une 15e station. Comme vous savez, il y a 14 stations. Mais là, à Lourdes, il y avait une 15e station. Et la 15e station, c'était la résurrection de notre Seigneur. À ce moment-là, ça m'avait beaucoup frappé, parce que je n'étais pas habitué. C'était ma première fois que je voyais cela. Mais en fait, quand on réfléchit de fond, la mort de notre Seigneur, la crucifixion de notre Seigneur, n'est pas le point terminal de sa mission, de sa vie. La mort, la résurrection conduit à la résurrection de notre Seigneur. Quand je réfléchis, je regarde l'attitude qu'a été celle des apôtres. Sans le juger, probablement que moi-même, j'aurais fait la même chose. Les apôtres, après la mort de notre Seigneur, étaient découragés parce qu'ils avaient mis leur confiance, leur foi. Ils avaient vu dans ce maître-là l'accomplissement du royaume de Dieu. Le Seigneur allait, par un geste spécial, commencer une nouvelle vie avec eux qui allait l'entourer comme des personnes avec un titre spécial dans ce royaume-là. Mais voilà que est arrivé le Vendredi Saint. Une mort ignominieuse. Le Seigneur a été rejeté. Il s'attendait à ce que quelque chose se passe. Rien ne s'est passé. Il y a eu le silence de Dieu. Jésus, leur maître, a été tué comme un esclave, comme un fauteur de troubles, quelqu'un qui a été, comme disent même l'Écriture, quelqu'un comme qui a été maudit, dont Dieu a tourné le dos. Il est parti. Alors pour eux, ils ne comprenaient rien. Ils avaient les bras baissés. C'est ainsi qu'ils n'ont pas pu voir la lueur de la résurrection. Et ça a été difficile pour eux quand on suit l'Écriture, comment petit à petit les apôtres sont arrivés à comprendre l'Écriture et à accueillir le message de l'ange, le message de Dieu sur la résurrection de notre Seigneur. Quand on regarde de près, dans les lectures d'aujourd'hui, il y a tellement de choses à dire, mais on peut se rappeler que Jésus lui-même, dans l'Ancien Testament et avec les apôtres aussi, quand on fait le lien avec l'Ancien Testament, il était compris comme le nouveau Moïse. Moïse, qui a conduit ce peuple-là de l'esclavage au pays de la liberté, n'a pas pu entrer en terre promise, comme vous le savez. Moïse a vu la terre promise de loin et il est mort. Il n'a pas abouti avec l'Exode. La même chose, Jésus, peut-être, se disaient les apôtres, c'est le nouveau Moïse. Il arrive à l'Exode, il n'arrive pas à faire avancer le peuple là où il l'a mené. Ils ont pensé que c'était la fin de l'histoire. Alors, ils ont vécu dans le découragement. Mes amis, il ne faudrait pas pointer de doigt les apôtres, les disciples de notre Seigneur. Dans notre vie aujourd'hui, nous avons aussi des moments de ténèbres, des moments d'hésitation dans différentes situations de la vie. Parfois, nous vivons une expérience dans la vie et tout de suite, nous sautons dans l'absence de Dieu. Nous pensons que Dieu nous a tourné le dos, que Dieu est absent, que Dieu n'intervient pas dans notre vie. Il arrive des moments, quand nous faisons notre expérience, quand arrive la détresse, l'angoisse, tout de suite, nous pensons que Dieu nous a oubliés et nous entrons dans les ténèbres, nous entrons dans la noirceur des hésitations, dans le ténèbre de notre manque de foi. Mais aujourd'hui, moi je me suis dit, en fait, quand nous célébrons la résurrection de notre Seigneur, nous voulons lui dire que nous croyons en lui et que nous avons besoin de son aide pour continuer à croire. Par exemple, quand nous avons commencé la messe, la célébration dans la noirceur, l'obscurité, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, en fait, pour moi, c'était une prière envers le Seigneur. Seigneur, sauve-nous de notre obscurité, de nos ténèbres, du manque de foi, de nos ténèbres d'hésitation, de nos obscurités de haine. Fais-nous sortir de la noirceur du péché. Alors, quand la lumière du cierge pascal, qui est la lumière du Christ, qui est entrée dans l'Église, l'Église et on s'est passé les uns les autres la lumière, c'est pour dire que nous nous attachons à cette lumière-là. Et du coup, l'Église s'est illuminée de ce petit siège qu'on avait en main, comme pour dire le Seigneur vient à notre secours, le Seigneur c'est notre lumière pour nous aider dans nos ténèbres. C'est lui qui vient nous soutenir. C'est comme ça que lui-même a fait un effort, il est parti vers les apôtres comme lumière, pour les éclairer dans l'obscurité de leurs doutes, dans les ténèbres de leur manque de foi. Voilà ce que le Seigneur fait aujourd'hui avec chacun et chacune d'entre nous. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est ouvrir notre cœur et demander au Seigneur qu'il devienne notre lumière, la lumière d'aujourd'hui, qui vient nous éclairer dans notre cheminement. C'est la lumière de notre vie, la lumière de notre foi, la lumière de notre vie spirituelle. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le samedi saint, la nuit du samedi au dimanche? Voilà que le tombeau est vide. Moi, je me dis, puisque c'est toujours dans le contexte de l'année sainte dédiée à la miséricorde de Dieu, je reste convaincu que le Seigneur a ressuscité son Fils comme marque d'amour miséricordieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu aucun témoin, disons, aucun témoin oculaire au moment où Jésus est en train de ressusciter. Il n'y a pas de témoin. Dieu a ressuscité son Fils dans le silence, dans l'amour. Et moi je me dis, c'est parce que Dieu n'a pas voulu s'imposer à nous. C'est parce qu'il n'a pas voulu revenir à nous pour nous dire, vous avez tué mon fils, voilà moi je me venge, regardez-moi là, je le ressuscite, il est vivant. Vous voyez ce que vous avez fait, c'est moi qui ai raison, du tout. Il a ressuscité son fils dans la simplicité, dans l'humilité, dans l'amour miséricordieux. Et même, c'est lui-même qui prend le devant. Les femmes arrivent au tombeau. Le tombeau est vide. C'est lui par son ange qui prend le devant et qui dit, il est ressuscité. C'est un message divin. Il est ressuscité. C'est Dieu qui prend le devant, qui prend l'initiative d'expliquer les choses. Et à ce moment-là, les femmes qui ont été là ce matin-là commencent à comprendre ce que Jésus leur avait dit déjà quand il était avec elles. Ce n'est pas tout. Quand le Seigneur Dieu donne à son Fils l'occasion d'apparaître à ses disciples seulement, il le fait aussi dans le cadre de son pardon, dans le cadre de son amour miséricordieux. Parce que il ne veut pas aller apparaître à tout le monde pour s'imposer encore une fois. Il ne veut pas aller apparaître devant Pilate pour dire, écoutez là, tu m'as tué, hein, tu m'as mis à mort, mais voici vivant, du tout. C'est dans la simplicité, dans l'amour miséricordieux, dans l'élan de réconciliation, de pardon, que Dieu ressuscite son Fils. Et c'est dans cette même élan-là que Jésus apparaît à ses disciples, apparaît à son monde. Il n'apparaît pas pour écraser, il n'apparaît pas pour qu'on dise qu'il a raison. Il apparaît pour aimer, pour offrir la foi, pour offrir l'amour, pour offrir le pardon, pour offrir la réconciliation, continuellement. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous aujourd'hui. Mais maintenant, quand on réfléchit, on se dit, mais le Seigneur ressuscité, qu'est-ce que cela vient faire avec nous? Mais le Seigneur est ressuscité parce qu'il est notre maître, il est notre Seigneur. Alors, ça vient nous chercher parce que nous sommes des baptisés. C'est qui le sacrement le plus important qui nous fait ancrer en Jésus, c'est le sacrement du baptême. Le baptême fait de nous des membres du corps du Christ. Et comme il y a plusieurs lectures aujourd'hui qui en parlent, et alors, quand on parle de l'Exode, les peuples qui traversent la mer Rouge, eh bien, ils sont plongés dans la mer Rouge pour annoncer le baptême. Parce que traverser la mer Rouge, c'est aller vers la liberté, c'est sortir de l'esclavage. Alors nous, par les eaux du baptême, nous sortons de l'esclavage du péché et nous montons vers une vie nouvelle, la vie de Dieu. Et Paul est celui qui explique le mieux le baptême. Qu'est-ce que ça veut dire le baptême? Beaucoup d'entre nous ont été baptisés quand ils étaient des enfants, comme les enfants que nous avons ici aujourd'hui, et dont j'ai la joie de baptiser. Alors, les enfants, nous, quand on baptisait, en fait, on plongeait les gens dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu meurs avec le Christ. Bouf, tu ressuscites avec le Christ. Maintenant, tu as laissé dans le zoo ta vie ancienne, tes péchés, tes manières anciennes de vivre. Maintenant, vis en communion avec le Christ, la nouvelle vie, la vie de la lumière, la vie de l'amour, la vie de la réconciliation, la vie du Christ. C'est ça le baptême. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que ces enfants qui sont ici devant, on va le plonger dans l'eau, c'est-à-dire le baptiser, puis ça veut dire qu'ils reçoivent la vie de Dieu. Mais maintenant, tout le problème, mes amis, nous sommes des enfants de Dieu, c'est un fait, il n'y a pas de doute, nous avons été baptisés. Alors, maintenant, tout le problème, c'est devenir le devenir dans le quotidien. Comme le dit saint Augustin. Alors, tu es fille de Dieu, c'est beau. Je suis enfant de Dieu, c'est magnifique. Maintenant, deviens-le dans le quotidien, dans ta manière de vivre, dans ce que tu fais continuellement. C'est ça, notre tâche. Que au jour le jour, nous sommes appelés à vivre de la vie nouvelle. La vie nouvelle qui est la vie qui annonce l'amour, qui annonce la réconciliation. Cette nouvelle vie qui nous éloigne de l'orgueil, de l'égoïsme et qui nous invite à la vie du partage. C'est ça la nouvelle vie en Jésus-Christ. La nouvelle vie en Jésus-Christ est la vie qui vainc la mort et qui éclate en éternité. Savez-vous que après notre mort, nous allons vivre? Nous allons vivre avec le Christ. Et si après notre mort, nous allons vivre avec le Christ, c'est grâce à la résurrection du Christ. C'est parce que nous avons été greffés au Christ que sa vie circule en nous et que par cette vie-là, nous allons, à chacun son tour, vivre de la vie éternelle comme le Christ vit toujours. Voyez-vous, le Christ qui vit, la résurrection du Christ, ce n'est pas un événement du passé. Le Christ est présent aujourd'hui. Il nous parle, on est en communion avec lui quand on écoute les Écritures et nous faisons une expérience spirituelle avec lui dans nos vies de tous les jours. C'est comme ça qu'il faudrait entrer dans cet élan-là de notre Seigneur. Alors ce qu'il faudrait, c'est se mettre en tête et se rappeler ce que le Seigneur voudrait faire de chacun, chacune d'entre nous aujourd'hui. Je lisais un texte magnifique du pape, l'ancien évêque de Rome, Jean 23. Il disait, il rappelait en fait, il dit, le christianisme n'est pas un ensemble de faits contradictoires, des faits qui causent des conflits. Le christianisme, c'est la paix, la joie, l'amour, l'entente. Et il dit, la joie du christianisme jaillit de la joie du ressuscité. Comme chrétiens, nous sommes invités à exprimer cette joie au jour le jour. C'est les personnes qui vivent autour de nous qui peuvent arriver à dire « Le Seigneur est ressuscité en nous voyant vivre ». Mais si nous vivons, comme disait le pape dans un de ses articles, dans l'exhortation évangélique, où il dit « Parfois les chrétiens, nous avons un visage renfrogné, triste, comme nous venons du deuil ». Et la joie doit sortir de notre visage parce que le Christ est ressuscité, le Christ est de notre côté, le Christ vient nous partager la vie de Dieu. Nous avons Dieu de notre côté, Dieu nous accompagne même dans nos échecs, même dans nos ténèbres. Dieu nous donne sa lumière comme il a donné aujourd'hui la lumière quand il faisait sombre dans l'église. Dieu est toujours là présent, c'est une certitude et cette confiance doit éclater notre cœur et nous mettre toujours en joie parce que nous savons qu'il est là, qu'il est toujours présent avec nous. Voilà comment vivre comme chrétien aujourd'hui en face du Seigneur ressuscité. J'étais frappé, il n'y a pas longtemps, il y a une de nos familles ici qui a organisé une fête, puis j'étais invité à passer un moment, saluer la famille. Alors à un moment donné, je parlais avec un membre de la famille qui m'a donné un témoignage magnifique, qui m'a beaucoup touché. La personne disait ceci, c'était une femme d'un certain âge. Elle disait qu'elle a eu 8 enfants dans sa vie. Et puis à un moment donné, son deuxième enfant est né, mais l'enfant n'a pas évolué normalement. L'enfant était handicapé sévèrement. Alors, c'était difficile. Elle devait garder cet enfant-là continuellement. Les années passaient, mais l'enfant ne grandissait pas comme tel. Il est resté chétif, disons. Alors il s'est fait qu'elle est tombée enceinte. Elle devait partir à l'hôpital. Elle a demandé aux membres de sa famille si quelqu'un pouvait garder l'enfant. Le temps qu'elle part à l'hôpital, à ce moment-là, ça faisait au moins 2 semaines à la maternité, disait-elle de son temps. En famille, personne n'osait prendre la responsabilité d'accepter d'aller garder cet enfant-là. Peut-être par peur, peut-être par délicatesse, c'était difficile. Elle dit qu'elle a trimé, elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Finalement, dans sa famille éloignée, elle a trouvé cette arrière-tante-là qui a accepté. Et la tante a gardé l'enfant. Madame me dit qu'à la maternité, les choses se compliquaient. Elle est restée 1 mois. Et puis cette femme-là a gardé cet enfant durant tout 1 mois. Pour cette dame-là, c'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle me racontait encore. Elle dit, elle n'oubliera jamais ce fait-là. Et puis elle m'a présenté la dame qui a fait ça dans la salle. Elle dit, moi, chaque fois que je la vois, je me rappelle ce geste-là qu'elle a posé pour moi. Ce geste-là, mes amis, c'est un geste de vie, c'est un geste de la résurrection, c'est un geste qui reflète la présence du Christ dans la vie aujourd'hui. Voilà des gestes comme tels que nous sommes appelés à poser, nous autres, pour montrer comment le Christ est présent. La compassion, l'amour, pour montrer que le Christ est toujours là avec nous. Alors on va continuer notre célébration en demandant au Seigneur de venir nous remplir de son amour. Que la flamme que nous sommes distribués continue à brûler dans notre cœur. À brûler dans notre cœur pour que continuellement nous la portions et que nous soyons les personnes qui évangélisent, les personnes qui vont au loin pour annoncer cette bonne nouvelle-là. Regardez, en France, par exemple, au VIe siècle, il y a l'évêque Grégoire de Tours qui dit que la lumière du Christ, parce que le Seigneur était compris toujours comme un soleil, c'est le soleil, le Seigneur, à Pâques. Quand vous regardez les textes liturgiques, le soleil, c'est le Christ. Alors, il dit, il y avait une coutume en France qui faisait que le feu qu'on a allumé le soir, on l'allumait durant le jour. Comment ça? Avec la lumière du soleil. Il dit qu'il y avait des verres typiques, spéciaux, des verres cassés. Et avec ces verres-là, ils faisaient qu'ils allumaient le feu pour dire que la lumière vient du Christ, vient d'en haut. Et puis ça va allumer cette lumière-là qu'on va se distribuer comme lumière du Christ. En d'autres termes, la lumière que nous portons, mes amis, vient de Dieu. C'est le Christ, le soleil qui ne se couche jamais, le soleil qui est toujours présent. Alors c'est ce soleil-là qui nous éclaire aujourd'hui depuis notre baptême. C'est avec ce soleil-là que nous sommes appelés à aller éclairer les autres après cette célébration durant toute notre vie. Amen.